Extrait du journal de bord du Quo Vadis. Capitaine Joseph Kellan. Année terrestre 2786. Archives numériques consultées pour la dernière fois en l'an 2830 pour impression et conservées sur papier en plusieurs exemplaires dans la bibliothèque du Quo Vadis. Que signifie le terme de « leader » ? Par moments, je me le demande, car je n'ai pas l'impression de mener notre équipage, du moins pas comme on l'entend habituellement. Il y a beaucoup de choses qui émergent du groupe, et ce sont ces choses-là qui impulsent les directions profondes. Les leaders dans l'histoire n'ont jamais fait que prêter leur forme, leur nom, leur image, à quelque chose qui existait déjà dans la foule, avant eux. Ils ne mènent pas, ils incarnent, parfois malgré eux, portés par les circonstances. Ce qui est en train d'émerger à bord du Quo Vadis me fascine. Je n'y aurais jamais pensé, aucun d'entre nous n'y aurait jamais pensé de son côté, car c'est un phénomène purement social, un phénomène de groupe, et à ce titre, il échappe à toute décision, à toute intention consciente. Je vais essayer de nommer ce phénomène, mais il me semble que les mots de notre vieille langue commune, qui a autrefois été l'anglais, sont trop étroits pour le décrire. Il faudrait sans doute parler de spiritualité, et même peut-être de magie, mais peut-on parler de spiritualité quand on sait que le ciel est vide? Et peut-on parler de magie quand on ne croit qu'à la causalité ordinaire? J'ai déjà évoqué dans ce journal ce lien particulier, presque télépathique, qui semble fonctionner entre certaines personnes de l'équipage. Tout le monde à présent a remarqué et accepté la réalité de ce phénomène psychique, et des pratiques sociales ont commencé à se développer autour de cela. Tout un vocabulaire aussi, et des rituels. Je vois de plus en plus de personnes renforcer ces liens par des tatouages. Chapitre 7. Sanctions. Calendrier organique en 589. Année terrestre 3416. L'aube, dans la forêt de l'Organe, était d'une beauté émouvante. De la terre humide s'élevait une vapeur blanche qui réfléchissait les premiers rayons, de sorte qu'on avait l'impression que la lumière montait de la terre plutôt qu'elle ne descendait du ciel. Tout en marchant, Michael fermait parfois les yeux pour se pénétrer du chant des oiseaux invisibles. Il les imaginait par centaines, par milliers, célébrant le retour du jour dans un débordement de vie. Il n'existait aucun autre son plus joyeux que celui-là, aucune musique qui pénétra votre âme d'un espoir plus puissant. La pensée du départ, Michael avait réussi à la réduire à un point noir, presque imperceptible dans sa conscience. Il essayait de se faire présence pure, adhésion à l'instant, tout entier à la chance qu'il avait de vivre ces moments fugitifs qui constitueraient peut-être, dans les années à venir, son plus précieux bagage. La nuit qu'il avait passée avec Foudre tenait du miracle dans son existence militaire et il ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissant envers la traîtrise de l'ingénieur Ido qui lui avait offert la possibilité de cette escale. Un seul souvenir pouvait-il remplir une vie ? En cette aube sacrée qui baignait la forêt de lueurs mystérieuses, il lui semblait que oui. Ces quelques heures sur l'Organe, entre les bras de cette jeune femme, jetteraient sur la pénombre éternelle des vaisseaux leur clarté réconfortante, sans jamais se tarir, sans jamais s'affaiblir. Foudre marchait devant, soucieuse. Elle écoutait toujours à cette heure les murmures de ses tatouages. En effet, les douleurs des clés s'apaisaient toujours avec la nuit, lorsque leur clan était livré au sommeil et se ravivait à son réveil. Nuée et sa mère étaient les plus vives douleurs, mais il y avait dans tout son corps une courbature, un élancement qui venait du clan tout entier en deuil. Elle ressentait le besoin de se trouver auprès d'eux et de les réconforter. C'était le seul moyen, à vrai dire, de calmer la tension de son propre corps. C'était ainsi que les liens avaient été conçus. Pour suppléer à l'imperfection humaine, à l'égoïsme, à la cécité, à l'aspiration au bonheur individuel des clés. Il n'était pas nécessaire de vouloir le bien, avec sa raison, ses sentiments ou son âme. C'était le corps qui prenait le relais, impérieux et primordial. Même si Foudre se sentait dangereusement troublé par cet homme de la sonde, au risque d'oublier ses devoirs, il y avait ces douleurs intestines dans sa chair qui imprimaient en elle, à un niveau aussi profond que l'instinct de survie, l'instinct d'aider son clan. Mais aujourd'hui était une journée particulière et il lui faudrait lutter à la fois contre son inclination pour Michael Strauss et contre l'instinct du clan, car sa présence serait requise auprès des autres clés pour l'inévitable sanction de l'ingénieur Ido. Lorsqu'ils parvinrent sur la grande place qui se trouvait au niveau de l'entrée principale du vaisseau, une foule nombreuse était déjà assemblée. Michael vit tout de suite l'ingénieur Ido, qui, imperturbable, se tenait debout à côté des clés qui les avaient reçues la veille. Il ne paraissait pas être retenu de force. Tandis que Foudre allait parler avec Pluie, Ambre, Fleuve et Avril, Michael observa la place. Les autochtones de la ville s'attardaient pour certains, curieux de ce qui se passait, et l'on entendait des bribes de leur conversation. « Il paraît qu'il a visité le vaisseau sans autorisation. On l'a retrouvé à l'intérieur ce matin, et personne ne sait combien de temps il y est resté. Il paraît qu'il prenait toutes sortes de choses en note jusqu'au dernier moment. Ces gens ne manquent pas d'audace. Vous voulez dire qu'ils sont inconscients ? Laquelle des clés va procéder à sa sanction ?» Michael, mal à l'aise dans ses vêtements militaires qui le marquaient du sceau des traîtres, se posait silencieusement d'autres questions. Qu'est-ce que Ido était allé chercher exactement ? Qu'avait-il trouvé ? Avait-il agi sur ordre du capitaine Richards ? Devait-il essayer de le défendre ? Se présenter comme un relais diplomatique ? De quelle mystérieuse sanction les badauds parlaient-il ? Foudre, dit-il à mi-voix. Elle se retourna vers lui, l'air désolé. Ton camarade va être soumis à l'aiguille. Est-ce mortel ? Demanda Michael anxieusement. Elle ne put s'empêcher de sourire. Non, pas du tout. Tu devras ensuite l'escorter à bord de ton vaisseau, et il ne devra pas reparaître sur l'organe. Qui est en charge ? Est-ce la clé qu'on nomme Pluie ? Oui, dit Foudre, en quelque sorte. Michael s'avança vers la vieille femme, qui releva un peu le menton à son approche pour mieux le toiser. Au nom du capitaine Egon Richards et de tout l'équipage de la sonde, je vous présente toutes mes excuses pour le comportement indigne de l'ingénieur Ido. Pluie le considéra gravement. Pourquoi t'excuses-tu pour lui ? Es-tu responsable de ses actes ? Non, balbutia Michael. Et ton capitaine Egon Richards, a-t-il contraint l'ingénieur Ido à agir ? Je l'ignore, madame, je crois que non. Ido s'agita à quelques mètres. « Je l'atteste, le capitaine Egon Richards n'a rien à voir avec mon initiative. » Pluie semblait réfléchir. « Je cherche à comprendre, dit-elle. Votre chef a-t-il les moyens de vous contraindre à faire ou à ne pas faire quelque chose ?»« Le capitaine commande et la hiérarchie militaire nous impose d'obéir. » Pluie adressa un regard significatif à Fleuve, puis à Foudre, comme s'il venait d'avoir confirmation d'une chose qu'il soupçonnait. Cependant, Michael ne comprenait pas ce dont il s'agissait. « Mais vous avez la liberté de désobéir aux ordres, n'est-ce pas ? » demanda Foudre avec douceur. « Oui, naturellement. Mais je vous assure que l'ingénieur Ido devra assumer les conséquences de son choix. Le capitaine Richards ne laisse pas impuni aucun manquement à la discipline militaire. Je vous assure qu'il prendra la mesure de l'affront qui vous a été fait et que... « Nous n'en doutons pas, » dit Pluie lentement. « Pourrais-je solliciter dans ce cas un retour immédiat au vaisseau, afin que l'ingénieur Ido soit confronté à son supérieur dans les plus brefs délais ? Mais bien sûr, vous le raccompagnerez aussitôt que nous aurons accompli une petite formalité sur sa personne. » Ido, l'air buté, demeurait impassible. « Je me permets d'insister, commença Michael, pour que... « Votre insistance ne servira à rien, jeune homme. La décision a été prise de manière collégiale. » « Et je pense que votre hôtesse joindra sa voix à la nôtre. » Foudre, sans hésitation, acquiesça. Pluie fit un petit geste de sa main recouverte de tatouages entrelacés, un petit geste d'une grâce impérieuse pour le congédier ou le faire taire. Michael adressa un regard à l'ingénieur Ido, qui hocha la tête comme pour le remercier de sa vaine tentative d'intercession. C'est moi qui procéderai, déclara Pluie, et je choisis la paupière droite. Les paupières étaient les rares morceaux de peau encore vierge de sa personne, sans doute parce que le tatouage devait y être particulièrement douloureux. « Foudre, » dit Pluie, « peux-tu manier l'aiguille? Tu as la main la plus sûre. » La jeune fille se dirigea vers Fleuve qui lui tendait dans un coffret un étrange nécessaire. Il y avait là une très longue et très fine aiguille, ainsi qu'une petite fiole contenant un liquide d'un bleu obscur. On fit asseoir Ido, et sa tête fut maintenue par Avril et Ambre, non sans une certaine douceur. « Nous allons vous souffler les paroles que vous devrez prononcer, » murmura Ambre à l'oreille de Ido. « Suis-je obligée de me prêter à cette simagrée, » grogna-t-il. « Absolument, » dit-elle. Ido vit Foudre s'approcher de lui, la longue aiguille en main, et tâter de ses doigts légers l'os de son crâne au niveau de son front. « Ne vous inquiétez pas, la douleur est supportable, » dit-elle. Ido se raidit un peu, mais sa tête était fermement maintenue et il ferma les yeux pour ne pas voir l'aiguille s'approcher de son front. « Que l'aiguille serve à recoudre la confiance déchirée, » dit Pluie d'une voix forte, « qu'elle tisse un lien solide. » Il la sentit pénétrer dans sa chair et il eut l'impression, pourtant contredite par toutes ses connaissances en anatomie, qu'elle traversait sa boîte crânienne. « Je prends la responsabilité de tes actes, » dit Pluie. « Vous devez répondre, je renonce au secret. »« Je renonce au secret, » prononça Ido, surpris par le son de sa propre voix et comme dissocié de lui-même. Puis l'aiguille se retira et Foudre la trempa encore humide dans l'encre bleue avant de réaliser un point sur la paupière de Pluie. « Que le poids de tes fautes te soit retiré, » dit encore Pluie. « Je serai pur comme l'enfant. » Tandis que Foudre enfonçait l'aiguille à divers points du visage et du corps de Ido, Michael, hypnotisé, entendait les paroles rituelles et tâchait d'en démêler le sens. « Je veillerai sur ta raison. Je respecterai tes décrets et me plierai à ta gouvernance. Je ne ferai preuve d'aucune cruauté. Je te prêterai la force de mon esprit lorsque tu en auras besoin. L'équilibre du clan sera ma seule boussole. Je serai ton corps, tes mains, ton bras, tes jambes. Je serai ton courage et ton guide. » La cérémonie paraissait toucher à sa fin. Les badauds, l'air grave, hochaient la tête et un frémissement imperceptible dans la foule indiquait qu'elle allait bientôt se disperser. Le dernier baiser de l'aiguille et les derniers serments furent suivis d'un long silence. Pluie s'adressa alors à Ido. « Tu ne mettras plus le pied sur le sol de l'organe. » Ido s'inclina. Son visage était luisant de sueur et ses traits semblaient tirés comme après une vive douleur. Michael s'approcha pour lui donner le bras, et il ne le refusa pas. « Je vous remercie pour votre hospitalité, » dit-il timidement, en s'adressant à Pluie. « Vous êtes le bienvenu sur l'organe, Major Michael Strauss, » dit Foudre d'une voix claire. « Quand votre vaisseau doit-il repartir de notre ciel ?» demanda Ambre. « Je l'ignore, mais j'espère avoir l'occasion de vous revoir et de répondre à l'invitation de Foudre. » Les clés répondirent d'un signe de tête indifférent. Foudre proposa de les raccompagner à l'annexe et Pluie se joignit à eux. Michael, malgré son envie de trouver un moment pour parler à Foudre, soutint son coéquipier et ils restèrent tous deux plongés par un accord tacite dans un silence quasi complet. Sans doute à cause des événements de la matinée, l'émerveillement qu'il avait éprouvé en présence de la forêt s'émoussait déjà et il se demanda vaguement au bout de combien de temps il serait devenu insensible à cette présence s'il avait eu la chance de demeurer ici. Probablement très vite, songea-t-il, pour se donner le courage de remonter. Les sensations qui l'assaillaient ne lui laissaient aucun repos. Il y avait l'inquiétude pour Ido, à laquelle se mêlait un certain agacement, car il les forçait tous deux à abréger leur mission, peut-être définitivement. Mais il y avait aussi l'organe qui les enveloppait, au second plan, avec ses bruissements et ses souffles caressants, et Foudre derrière lui, dont il percevait la voix, le corps, dont il se rappelait la nudité et qu'il allait falloir quitter. Il tenta, pour couper court à ses impressions diverses, de se concentrer sur la conversation que les deux femmes tenaient à voix basse. « Tu as bien fait, » disait Pluie. « Je pense que tu aurais même pu aller plus loin. » Foudre répondait à voix trop basse pour que Michael pût l'entendre. « Comment as-tu interprété ces émotions ? demanda Pluie. À nouveau, des mots inaudibles. Pour l'autre, c'est un peu différent. Il s'agit d'une sorte d'excitation. Une question murmurée. Non, pas du tout de cette sorte. Quelque chose de violent, comme lorsqu'on attrape sa proie ou que l'on découvre une idée particulièrement fructueuse. Une autre question. Je le crains. Cela n'est peut-être pas encore conscient chez chacun d'entre eux, mais c'est là. Foudre resta un moment silencieuse, puis elle dit quelque chose un peu précipitamment. Je sais, cela ne m'enchante pas non plus, mais il faudra s'y résoudre. Cette fois, Michael parvint à comprendre la question de Foudre. Sait-on où se trouvent les autres ? Non, il n'y a aucun moyen de le savoir. L'organe est trop vaste. L'information se perd avec la distance. Et la distance avec le vaisseau n'est-elle pas trop grande ? Il n'y a que de l'air au milieu. Cela ne posera pas de problème. Puis les deux femmes se turent. Michael murmura à l'adresse de Ido. Vous vous sentez normal, ingénieur Ido ? Je me sentirai beaucoup mieux quand on aura réussi à faire décoller l'annexe. Non, je voulais dire, cette aiguille, cette cérémonie, cela ne vous a pas blessé, vous ne sentez pas de séquelles ? J'irai voir le médecin du bord, mais non, je ne crois pas. C'est un décorum primitif, du grand guignol à 4 sous, maugréa-t-il, tout au plus une sorte d'acupuncture. Vous croyez ? Ido le considéra avec étonnement. Et vous, vous croyez le contraire ? Michael, malgré sa perplexité, eut un peu honte de se laisser si facilement séduire par les autochtones et d'abandonner si vite sa rationalité. Non, bien sûr, je posais juste la question pour vérifier que tout allait bien. Vous avez fait votre rapport au capitaine Richards ? Oui, j'en ai même fait plusieurs au fur et à mesure de mes découvertes, au cas où j'aurais été mis dans l'incapacité de le faire plus tard. Michael hocha la tête. Il imagina la nuit exceptionnelle et solitaire de l'ingénieur Ido dans le vaisseau et ses rapports fiévreux envoyés à la hâte. Le capitaine Richards avait-il passé une nuit blanche à attendre ses informations distillées au compte-gouttes ? Ils arrivèrent enfin à l'annexe et Foudre s'approcha spontanément de Michael. « Il faut revenir, Michael Strauss, » dit-elle en le fixant de ses yeux profonds. « Nous n'avons pas fini d'échanger nos coutumes. » Les souvenirs de la veille affluaient à sa mémoire et à sa peau. Il revoyait les reflets de la lune sur son ventre et le parfum de ses cheveux entêtait son imagination. « J'espère que je le pourrai, Foudre. »« Il le faut, » dit-elle en souriant. « Je l'ordonne. » Il sourit à son tour, puis elle recula avec solennité et se tint à côté de Pluie. L'ingénieur Ido était déjà monté dans l'annexe et Michael le rejoignit après avoir salué la vieille femme dont la paupière droite, légèrement enflée, était rouge. Le bruit agressif du moteur, la secousse brutale du décollage, le cœur de Michael soudain arraché de sa poitrine, les arbres, les ruisseaux, les oiseaux de l'organe devenant en quelques secondes aussi petits et irréels que des détails sur une image peinte. Quand l'annexe s'arrima à son quai, les yeux de Michael reconnurent le décor familier du hangar et son corps se réajusta immédiatement à la gravité artificielle à laquelle il était habitué. Mais son esprit était resté en bas. Le capitaine Richards et le lieutenant Malkin les attendaient avec une impatience manifeste. Il fallut beaucoup d'efforts à Michael pour accomplir ce qui était attendu de lui et qui avait, momentanément, il l'espérait, tout à fait perdu son sens. Le dos droit, le salut militaire, les paroles réglementaires. Il comprit, à travers une sorte de brume, que le capitaine Richards les priait tous les deux dans la salle de débriefing, ce qui était parfaitement logique. Le lieutenant Malkin, en tant que second, allait également assister à l'entretien. « Major Strauss, nous allons commencer par vous. Avez-vous réussi à nouer des relations diplomatiques amicales ?»« Oui, malgré l'interruption occasionnée par l'ingénieur Ido, j'ai réussi à tisser un lien d'amitié avec la clé qui m'a accueilli dans sa demeure. » Pouvez-vous me faire un rapport synthétique sur la mentalité des autochtones ? Les impressions de Michael étaient trop intenses pour le moment pour former autre chose qu'un kaléidoscope. Mais l'habitude de la synthèse et le sentiment du devoir aidant, il parvint à formuler quelques phrases. La société clanique, marquée par une forte solidarité de chaque clan, les clés sont les chefs de clan, ils semblent coopérer entre eux pour prendre les décisions d'ensemble de la cité. La hiérarchie n'est pas marquée par un protocole formel, mais par un respect universel envers les chefs, sans distinction d'âge ou de sexe. Il ne semble pas qu'il s'agisse d'une société particulièrement patriarcale. Et il n'y a pas d'enrichissement personnel remarquable chez ces chefs, qui vivent de manière modeste, à l'écart et sans ostentation. La ville est remarquable par sa beauté, je n'ai pas vu de quartier déshérité, et tendrais à penser qu'il existe une forte solidarité sociale et peu d'inégalités de revenus. Oui, oui, fit le lieutenant Malkin comme pour le presser d'abréger. Michael ne releva pas cette interruption. La maîtrise du langage paraît excellente et l'habitude de lire semble enracinée chez certains autochtones. Le capitaine Egon Richards sourit. Ils semblent avoir développé des connaissances et des pratiques dans des domaines singuliers, dit encore Michael, comme la synchronisation corporelle, l'éthologie végétale et animale. Le capitaine souriait toujours d'un air poli. « Vous paraissez charmé, Major Strauss. » En effet, c'est une civilisation pacifique et prospère. Le lieutenant Malkin soupira bruyamment. Le capitaine Richards n'en fit rien, mais Michael sentit qu'il avait assez parlé et se tut. J'espère que ce sentiment d'amitié envers les autochtones ne vous empêchera pas de mener à bien votre mission diplomatique, dit Malkin. De quelle mission s'agit-il ? Le capitaine lança un regard de reproche au lieutenant, mais comme Michael s'y attendait, il ne lui reprocha rien ouvertement. Le lieutenant Malkin anticipe, bien sûr, sur les éventuelles conséquences diplomatiques de l'analyse de l'ensemble des rapports. La phrase ne voulait pas dire grand-chose. Cela arrivait souvent au capitaine Richards de prononcer d'un air très solennel des phrases un peu creuses. Michael s'abstint de tout commentaire et ravala sa question. « Nous ne prendrons aucune décision jusqu'au retour de la seconde équipe qui n'est pas prévue avant 72 heures, » ajouta le capitaine. Puis il se tourna vers Ido et s'adressa à lui d'un air sévère. « Ingénieur Ido, je vous avais formellement ordonné de vous en remettre au Major Strauss pour tout ce qui concernait les relations diplomatiques, et il s'avère que vous vous êtes passé de son accord pour enfreindre les règles fixées par les autochtones. Je suis conscient de ce manquement, mon capitaine. Me permettez-vous de vous en expliquer les raisons ?»« Faites !» intervint le lieutenant Malkin, plutôt aimablement. L'objectif qui était le mien était malgré tout d'évaluer le potentiel technique de cette civilisation et de nous faire une idée exacte de ce qu'il maîtrisait ou non. Visiter le vaisseau me paraissait indispensable à la réalisation de cet objectif. Ne pouvant concilier les deux, j'ai privilégié l'objectif technique par rapport aux recommandations diplomatiques. En faisant courir au Major Strauss un risque considérable, sans parler de vous-même, les autochtones auraient pu vous tuer, insista mollement le capitaine. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences possibles pour le Major Strauss et le prix de me le pardonner. J'étais quant à moi déterminé à assumer les conséquences de mes actes. J'ai estimé que ces informations étaient, en quelque sorte, plus précieuses que ce que je risquais. « Et c'est une décision courageuse, » dit le lieutenant Malkin. « Courageuse mais irréfléchie et dangereuse. Les choses ont bien tourné, mais vous auriez pu vous faire tuer sans obtenir aucune information et mettre l'ensemble de la mission diplomatique dans l'embarras, » martela le capitaine Richards. Michael voyait très bien le désaccord entre le capitaine et son second, et il fallait que le capitaine eût le dernier mot. « En effet, ingénieur Ido, » finit par dire le lieutenant Malkin. « Pour votre manquement à la discipline, je propose 4 jours de cachot. »« 8 jours, » trancha Richards, « c'est le moins qu'on puisse faire. » Il y eut un bref silence. Ido devait se sentir soulagé. Michael avait craint une sanction beaucoup plus lourde à son égard. Mais il comprenait que les informations qu'il avait glanées étaient vraiment précieuses, si précieuses même qu'elles éveillaient sur le visage des deux supérieurs l'expression d'un intérêt évident que son propre discours n'avait pas du tout suscité. Ido était sanctionné pour la forme, officiellement, mais le lieutenant Malkin, manifestement, aurait été plutôt enclin à le féliciter. En fait, Michael comprenait que c'était à sa seule intention que cette mascarade était jouée, afin qu'il ne puisse pas se plaindre d'une injustice. S'il n'avait pas été là, cette partie de l'entretien n'aurait même pas eu lieu, et le capitaine Richards en serait venu directement au point où il aboutissait en ce moment. Une fois cette question réglée, ingénieur Ido, nous souhaitons entendre votre rapport détaillé sur l'état du vaisseau et sur sa cargaison. Ces questions n'intéressent pas le Major Strauss, dit Malkin. En effet, répondit le capitaine, Major, je vous serai reconnaissant de bien vouloir vous rendre au chevet du mécanicien Reda. Il attend votre visite. « Bien entendu, il n'y a pas de véritable urgence. Vous pouvez vous restaurer d'abord. » Michael salua et sortit. Il avait l'habitude d'être semblablement éconduit, écarté des réunions sensibles. Le capitaine Richards tournait les choses de manière plus polie que le lieutenant Malkin, mais cela au fond revenait au même. Il n'avait pas faim et se rendit directement à travers les coursives dans le quartier de Reda. En chemin, il repensa à la petite phrase du lieutenant Malkin. « J'espère que votre amitié pour les autochtones ne vous empêchera pas de mener à bien votre mission diplomatique. » Cette phrase, malgré les incertitudes qu'elle contenait, lui promettait un retour sur l'organe. Une autre mission diplomatique, c'était la chance de revoir Foudre, de sentir à nouveau l'herbe, les arbres et le soleil. Cela suffisait pour l'emplir de joie, même s'il comprenait très bien les possibles implications de ce à quoi il venait d'assister. Le vaisseau devait contenir des matières premières utilisables, et Richards et Malkin voudraient probablement les négocier avec l'organe. Michael se demanda s'il serait de taille à mener cette négociation. Puis, en arrivant devant la cabine de Reda, il haussa les épaules et se concentra sur la tâche qui l'y attendait. Philippe Reda lui ouvrit dès qu'il frappa, et Michael perçut dès l'abord un changement dans l'atmosphère qui l'entourait. Il semblait, d'une certaine manière, plus vivant, plus éveillé, et sa cabine, qui lui avait laissé le souvenir d'un certain désordre, était aujourd'hui d'une netteté presque excessive. « Major Strauss, je suis content de vous voir. » Reda souriait, d'un sourire pâle, un peu distant et qu'on sentait volatile, mais il souriait, et Michael trouva à son visage un charme qu'il n'y avait pas vu. « Vous semblez aller mieux ?» fit-il. Reda ne répondit pas et l'invita à s'asseoir. « Savez-vous que le capitaine Richard s'est déplacé lui-même pendant votre absence ?» Michael ne cacha pas sa surprise. « Cela vous a-t-il été utile ?»« Non. » Reda soupira, les yeux dans le vague, comme s'il cherchait le mot juste. « La compagnie du capitaine Richards n'a pas pour moi plus d'intérêt que celle d'une fourmi ?» Michael éclata d'un petit rire surpris. « Que voulez-vous dire ?»« Son esprit est habité par des codes, des signaux, des informations qui ne sont d'aucune utilité pour moi. Il habite lui-même un monde dans lequel je n'habite pas. » « En quoi cela vous fait-il penser à une fourmi ?» Eh bien, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que sur la Terre, même au point le plus aigu de la surpopulation, la masse totale des fourmis excédait celle des humains. Ce qui signifie que dans tous les espaces, les fourmis coexistaient avec les humains. Ils vivaient à côté, dans des univers parallèles. Ils pouvaient se toucher parfois, se blesser ou se tuer mutuellement, mais leurs logiques respectives, elles, ne se rencontraient jamais. Elles étaient absolument parallèles, séparées aussi absolument que par des millions d'années-lumière. Si un être omniscient avait dû raconter l'histoire des hommes d'un côté et l'histoire des fourmis de l'autre, ces deux histoires n'auraient eu aucun événement commun, et probablement pas même de cadre commun. Ainsi il en va pour moi du capitaine Richards. Il m'est aussi radicalement étranger que s'il était à des années-lumière, dans un autre univers, aussi étranger qu'une fourmi. « Je comprends, » dit Michael. « Je partage sans doute, à certains moments, une impression un peu similaire. »« À quel moment ?»« Lorsque nous avons une conversation. J'ai souvent l'illusion de pouvoir communiquer avec lui et puis il dit soudainement quelque chose qui me rappelle à la réalité. »« Pourquoi ne pouvez-vous pas communiquer vraiment avec lui ?»« C'est peut-être son sens de la hiérarchie qui crée cette cloison étanche, je ne sais pas. » Reda haussa les épaules. Il m'a proposé une cabine plus grande. Il m'a proposé même de passer une semaine sur la planète. Et vous avez refusé ? Il n'a pas voulu que j'y reste définitivement, alors. À quoi bon ? Michael hésita avant de demander. Si vous pouviez vivre sur l'organe, vous n'auriez plus envie de mourir ? Sans doute. La question se poserait à nouveau d'une façon différente. Où en êtes-vous de vos idées noires ? Vous savez, ce n'est pas comme une chose qui peut aller et venir, c'est plutôt comme un organisme qui est là et qui croît à une vitesse inégale, avec des pauses et des accélérations, mais cela ne diminue jamais. Vous pensez que tous les gens qui ont envie de mourir finissent par se suicider ? Reda considéra la question avec intérêt et sérieux. Non, quand ce n'est pas trop développé, cela n'empêche pas de vivre. Beaucoup de gens doivent mourir d'autre chose, avant terme en quelque sorte. Cela ressemble à quoi ? Vous ne le savez vraiment pas ? Non, fit Michael, je ne crois pas. C'est étrange. J'aurais juré que cet organisme était présent dans tout homme, plus ou moins développé, plus ou moins épanoui, mais dans tout homme. Le désir de mort, articula Michael. C'est une idée que j'ai déjà entendue, mais je n'y ai jamais vraiment cru jusqu'à présent. Vous croyez à l'instinct de survie ? Oui, je suppose. Mais les deux ne sont pas contradictoires. Enfin, si, ils le sont, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne sont pas exclusifs. Ils coexistent, en quelque sorte. Comme les hommes et les fourmis. Oui. Chez moi, par exemple, l'instinct de survie est en train de s'affaiblir, tandis que le désir de mort s'accroît. Mais ils ont longtemps été de force égale. Dites-moi à quoi ressemble votre désir de mort. Reda soupira, et Michael fut troublé en reconnaissant dans son expression, dans le ton de sa voix, la même altération subtile et profonde qui transforme les amoureux lorsqu'on les invite à parler de l'objet de leur désir. C'est d'abord un désir de lâcher prise, de se laisser aller tout simplement, de cesser le combat. Un désir de dormir, de glisser. Et puis c'est aussi un désir de fuite. Comme une porte qui s'ouvre quand on se sent enfermé ? Oui, un peu. Mais ce n'est pas exactement comme une porte, plutôt un horizon. Un horizon très large. Michael demeura silencieux un moment, rêvant sur ces images. Est-ce présent en vous ? Demanda Reda au bout d'un moment. Oui. Dit Michael à voix basse. C'est comme un bruit très sourd que j'entends à peine, sauf si je tends l'oreille. Reda paraissait satisfait. Vous voyez, le capitaine Richards, par exemple, n'aurait pas répondu de cette façon à ma question. Il ne l'aurait probablement pas comprise. Il considère le suicide comme quelque chose de purement extérieur à lui, une sorte de dysfonctionnement pouvant affecter son équipage. Il n'en saisit pas la portée humaine. Il n'en saisit que les conséquences sur la fourmilière. Michael avait envie de changer de sujet, mais Reda parlait avec animation, et il lui semblait que par là, au moins, il se rattachait à la vie. Si leurs entretiens l'intéressaient assez, il pouvait peut-être contenir ses démons. « Vous devriez accepter de passer quelques jours à terre. Qu'avez-vous à perdre ?»« Une chose à laquelle je suis de plus en plus attachée, ma tranquillité. » Je n'ai pas envie de mourir avec un sentiment d'arrachement douloureux, pas envie d'avoir l'impression d'avoir raté ma vie. Je voudrais juste faire le vide, doucement, me débarrasser des choses de ma vie l'une après l'autre, en douceur, comme une pièce qu'on vide pour l'aérer. Il y a de moins en moins de meubles, de moins en moins d'objets, et les lignes pures de l'architecture peuvent enfin réapparaître. On se sent plus léger dans ce minimalisme, on se sent épuré. C'est comme ça que je veux mourir, pas en pleurant de rage ou de désespoir. Il me semble que je peux comprendre, mais en même temps le simple fait de se reconnecter à une planète prodigue un sentiment si puissant. La vie tout autour est contagieuse elle aussi. L'énergie des arbres, des animaux, de la communauté humaine innombrable se remet à couler dans vos veines. Et ça ne fait pas mal quand la circulation revient ? Michel Touré a sangloté en mettant pied à terre, et certains autres ont eu des phobies de l'espace et de la foule. Mais moi, j'ai senti ce flot d'énergie, et j'ai eu l'impression de ressusciter d'entre les morts. Nous sommes tous morts-vivants dans ces vaisseaux, des créatures blafardes et pitoyables. Vous savez, je crois que c'est comme cela qu'ils nous voyaient. Qui ? Les autochtones ? Ils nous regardaient avec une telle compassion, je crois que c'était cela le pire. Ils ne sont pas des fourmis, alors ? Non, ils sont plus humains que vous et moi. Philippe Reda demeura un moment songeur. Il ne souriait plus à présent, et la fatigue imprégnait à nouveau ses traits. « Je reviendrai demain ?» proposa Michael. « Avec plaisir. Je vous promets d'être encore là. »« Merci. » Ils se serrèrent la main, et Michael prit congé. Pour entrer dans sa cabine, il fit un détour par la promenade, une longue passerelle couverte de hublots qui permettait à tout l'équipage de venir admirer les beautés froides de la nuit sidérale. On y était rarement seul, mais le spectacle du vide, du rayonnement, de la rotation lente et inexorable du temps, incitait au silence. Michael fut heureux que le vaisseau fût orienté de telle manière qu'il pût apercevoir l'organe, bleue et verte, dans son atmosphère qui la protégeait de l'espace comme un bouclier féerique, la planète tournait lentement, presque insensiblement. La lumière et l'ombre, comme des principes divins, alternaient sur sa surface parfaite, comme si, à une certaine distance, toute chose, tout corps, toute vie, devenait une abstraction mathématique.